Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, jusqu'en 1959, on l'appelait mongolisme ou syndrome de Down en Grande-Bretagne. Sous cette appellation entraient les enfants au visage poupon, à l'anatomie arrondie et au retard mental. Ce trouble physique et mental était encore bien mal connu par les médecins jusqu'au jour où, en 1959 donc, le jeune médecin français, Jérôme Lejeune, mit le doigt sur la cause de ce trouble, la présence d'un chromosome supplémentaire sur la 21e paire, il l'appela dès lors trisomie 21. C'est cette histoire et les conséquences de cette découverte que nous vous proposons d'aborder à l'occasion en 2009 du cinquantenaire de la découverte de Jérôme Lejeune, mais aussi à l'occasion en 2009-2010 de la révision des lois de bioéthique en France. Jean-Marie Leminet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Vous êtes le président de la Fondation Jérôme Lejeune. Vous êtes l'auteur de La trisomie 21, une tragédie grecque publiée aux éditions Salvator en janvier 2009. Alors, avant de débuter par un peu d'histoire sur la découverte de la trisomie 21, pourquoi avoir intitulé votre ouvrage « La trisomie, une tragédie grecque » ?
Eh bien parce que je ne voulais pas faire un livre de médecine, ce que j'aurais été bien incapable de faire. Je ne voulais pas faire un livre de morale parce que c'est ennuyeux. Je ne voulais pas faire un livre sur le handicap parce que ce n'est pas forcément une littérature qui est facile à vendre. Et je voulais néanmoins présenter la question de la trisomie qui n'intéresse au fond pas grand monde et qui n'intéresse pas forcément l'opinion publique, c'est pas forcément évident. Je voulais l'intéresser avec une accroche qui peut paraître un peu littéraire, mais qui est en réalité une accroche, je dirais, en termes de problème de société. C'est une tragédie humaine. Et comment les tragédies humaines ont-elles été mieux rendues qu'à travers les tragédies grecques qui les ont en quelque sorte synthétisées ?
Tragédie grecque parce que, vous l'expliquez en préambule de votre ouvrage, c'est une découverte qui se retourne contre ces jeunes
enfants.
Voilà,
il y a une trame dramatique puisqu'on a une découverte, donc quelque chose qui est positif, qui est censé après ça déboucher peut-être sur des perspectives thérapeutiques puisque c'est un médecin qui fait cette découverte et qui veut après ça soigner ses patients. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, et assez rapidement, la découverte va se retourner et ce fameux chromosome 21 qui est trouvé après ça dans chacune des cellules des personnes touchées par la trisomie 21, eh bien ce chromosome 21 ne servira qu'à une chose, c'est à désigner au fond la personne souffrant de la trisomie de manière à pouvoir faire du dépistage, du diagnostic et éventuellement les conséquences qui s'en suivent.
Alors, nous verrons au cours de cette émission la différence que vous réalisez justement entre diagnostic et dépistage, vous en parliez à l'instant. Auparavant, peut-être quelques chiffres avant de passer un peu à l'histoire. La trisomie 21 touche 50 000 personnes en France,
voilà,
400 000 en Europe, 8 millions dans le monde.
Voilà, à peu près, voilà, c'est ça.
Et donc une probabilité pour les futures mères d'avoir un enfant trisomique qui augmente avec l'âge.
Voilà, alors en fait, c'est une maladie qui n'est pas une maladie rare en réalité, puisque la moyenne, c'est à peu près 1 sur 650 ou 1 sur 700. 700 conceptions, 700 naissances, enfin, bon, il faut voir à peu près dans le détail ce que ça fait, surtout après le dépistage. En réalité, c'est le chiffre qu'on retient. Donc 1 sur 700, mettons, ce n'est pas du tout le critère d'une maladie rare telle qu'on les entend aujourd'hui quand on parle, par exemple, de la myopathie ou de la mucoviscidose. On est plutôt dans 1 sur 2000, 1 sur 3000. C'est tout à fait autre chose. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le risque pour nous, pour vous, pour moi, d'avoir possiblement un enfant trisomique, de donner naissance à un enfant trisomique, n'est pas quelque chose d'absolument rare. Ce n'est pas très courant, il n'y a pas de quoi affoler la population, mais on n'est pas dans le concept de la maladie rare.
Venons-en un peu à l'histoire. En 1846, pour revenir un peu aux fondamentaux, c'est le docteur Édouard Séguin qui décrit pour la première fois le visage très caractéristique des individus trisomiques. Et en 1866, c'est un Britannique qui s'appelle John Langdon Aidan Down qui donne le nom de mongolisme. Vous pourriez nous en dire plus sur ce
personnage ? Oui, c'est bien de votre part de rappeler que la toute première fois, ça a quand même été un Français, Séguin, hein, qui a a parlé de l'idiocie furfuracée, enfin, c'est une terminologie un petit peu barbare qui rappelle le fait que les personnes touchées par le mongolisme ressemblaient à des poupées de son, un petit peu dire qu'elles étaient molles, un peu hypotoniques. Et puis, c'est vrai qu'on doit à Down, en Angleterre, d'avoir décrit sur le plan clinique les signes qui caractérisent l'apparence extérieure des personnes touchées par le mongolisme. Alors, Down avait trouvé que ses enfants, puisqu'à l'époque, c'était surtout des enfants, ils ne vivaient pas très vieux, avaient les yeux bridés, qu'ils étaient petits, râblés, la nuque épaisse, les membres courts, les phalanges courtes, etc. Et donc, il avait rassemblé tout ça dans une description clinique qui avait sa pertinence, d'où le syndrome de Down. Dans les pays anglo-saxons, on parle toujours du syndrome de Down. Mais le malheur, c'est qu'il a voulu, après ça, aller au-delà de la simple description clinique et il a voulu donner une explication scientifique, au fond, à ce désordre qu'il avait constaté et qui avait une apparence visuelle très caractéristique. Il avait dit, bien, au fond, s'ils sont comme ça, s'ils se ressemblent tous, s'ils ont un peu les yeux bridés et petits, eh bien, c'est qu'ils ressemblent à des Mongoliens et à des ressortissants de la Mongolie, et au fond qu'ils sont le produit d'une dégénérescence de la race, ce qui à l'époque pouvait paraître dans l'air du temps, c'était des choses qui se disaient peut-être à l'époque, ça ne se dit plus maintenant évidemment, mais surtout c'était totalement pas scientifique. Et il a sorti ça d'ailleurs, sa proposition, en disant c'est une dégénérescence de la race blanche vers la race jaune évidemment, d'où le nom de mongolien, ce qui était proprement contraire à toute raison scientifique, mais à l'époque on ne le savait pas.
Alors justement, dans votre ouvrage, La découverte de la trisomie, sur la trisomie est une tragédie grecque, le premier chapitre, La découverte de la trisomie, vous citez bien sûr Down dans un article intitulé Observations sur une classification ethnique des idiots. Vous parliez à l'instant de la couleur de peau. Je le cite, la peau a une teinte légèrement jaunâtre, déficiente en élasticité, donnant l'apparence d'être trop large pour le corps. Il ne peut y avoir aucun doute que ces caractéristiques ethniques sont le résultat d'une dégénérescence, ce que vous disiez à l'instant.
Voilà, c'est ça. Alors, ce qui ne va pas dans cette affaire, c'est que Down dit « il ne peut y avoir aucun doute que ces caractéristiques ethniques sont le résultat d'une dégénérescence ». Mais c'est justement la petite différence qui existe entre Down et le jeune, c'est que le jeune a eu des doutes sur le fait que ces caractéristiques ethniques soient le résultat d'une dégénérescence. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que pendant 100 ans, on a enseigné en médecine que les enfants mongoliens étaient le produit d'une dégénérescence de la race. Je pense que dans les années 60 enfin, ou 50, ce n'est pas ce qu'on enseignait en médecine en France, probablement pas, ni en Angleterre du reste. Mais probablement qu'on n'enseignait rien du tout parce qu'on ne savait rien. Et on ne savait rien de la cause scientifique du mongolisme. On savait les reconnaître, on savait qu'ils étaient, on disait ils sont mongoliens, mais on ne savait pas pourquoi. Et la grande découverte de Jean Lejeune, c'était de trouver pourquoi ils étaient comme ça.
Également, pour terminer sur Down, une autre description, il explique « ils sont comiques, ils sont habituellement capables de parler, le langage est simplet et indistinct, mais peut-être amélioré grandement par une méthode bien dirigée de gymnastique de la langue ». Donc ça veut dire que ce médecin en voyait déjà comment améliorer la vie de, ces, de ce qu'on appelait avant des Mongoliens.
Tout n'est pas faux dans la description de Down, bien au contraire, mais je veux dire, toute cette description clinique était juste, hein, bien sûr, il avait bien vu juste, et le fait de dire qu'on pouvait améliorer grandement le langage en leur faisant faire de la gymnastique de la langue, c'est quelque chose qu'on pratique toujours. Enfin, bon, donc, de ce point de vue-là, c'était parfaitement exact et plutôt positif, bien sûr.
Il faut attendre cependant 1959 pour voir donc, la proposition de Jérôme Lejeune apparaître. Donc, bien sûr, j'imagine que ça correspond aussi à une avancée dans la technologie et notamment de pouvoir faire les karyotypes pour pouvoir déceler ce troisième chromosome dans le numéro 21. Dans la paire 21.
Oui, alors c'est ça qui est important, c'est que en fait 59 c'est très tôt après 56. 56 c'est l'année de la découverte du nombre caractéristique des chromosomes dans l'espèce humaine. C'est en effet depuis cette époque, c'est donc très récent que l'on sait que les hommes et les femmes ont 46 chromosomes et que c'est le nombre caractéristique de l'espèce humaine. Avant, on pensait qu'on avait 48 et encore dans certains livres d'histoire naturelle des années 60, on trouve une trace de ce patrimoine chromosomique à 48 chromosomes. Donc ce qui prouve que c'est quelque chose de très récent qui n'était pas encore compris, intégré par tout le monde. Et donc, fort de cette découverte récente, en fait, le service dans lequel travaillait Jérôme Lejeune, c'est-à-dire le service du professeur Turpin, envoie un médecin, le docteur Gauthier, aux États-Unis pour apprendre directement de la part de ses maîtres qui travaillent aux États-Unis à l'époque, comment ils ont réussi à compter juste le nombre des chromosomes. Parce que vous avez vu comme moi à quoi ça ressemble, un plat de chromosomes, on dirait un plat de spaghettis. Et le problème, c'est qu'il y en a qui se cachent les uns en dessous des autres et on n'arrive pas à décompter. On recompte deux fois les mêmes. Il y a des petits qui sont cachés sous des grands, etc. Donc, en fait, Chio et Levan, qui avait découvert le nombre caractéristique de l'espèce humaine des chromosomes, avait bien étalé les chromosomes avec une technique particulière. Et Marthe Gauthier est partie là-bas pour apprendre la technique et l'a rapportée au laboratoire de Turpin où travaillait le jeune. Et le jeune avait déjà en fait quelques présupposés, il avait quelques intuitions et il se demandait si la pathologie très lourde dont souffrent les personnes mongoliennes à l'époque, on disait donc mongolien, il se demandait si cette pathologie n'était pas due non pas à un seul gène, parce que finalement il souffre de trop de choses pour que ce soit seulement un gène, mais peut-être est-ce qu'il souffre d'un dysfonctionnement qui est localisé sur un ensemble de gènes. Et un ensemble de gènes, qu'est-ce que c'est ? C'est un chromosome. Et à ce moment-là, il en est à ce stade-là de sa réflexion, quand arrive cette technique de décompte, et il fait le décompte des chromosomes qui se trouvent dans le génome de ses enfants qu'il a en charge. Il compte une fois, il compte deux fois, il compte trois fois, puis à chaque fois, il retombe sur un tout petit chromosome en plus, un petit 47e qui est logé sur la paire numéro 21. Donc c'est les plus petits chromosomes, les chromosomes 21, donc c'est les plus difficiles à trouver au fond, et à chaque fois il trouve que à cette paire se voit ajouter un tout petit chromosome en plus, et c'est la raison pour laquelle il a choisi de changer le nom de la pathologie en disant, mais voilà, c'est une trisomie, trois chromosomes sur la paire numéro 21.
D'où le nom trisomie.
Trisomie 21, et ça veut dire que chaque personne touchée par la trisomie 21 a dans son patrimoine génétique, dans chacune de ses cellules, une caractéristique génétique particulière dans chacune des cellules, ils n'ont pas 46 chromosomes, mais 47, et dans chacune des cellules, c'est le petit 21 qui est répété trois fois.
Avec la preuve, donc en 1959, que c'est une maladie et non pas une dégénérescence, et que ce n'est pas une maladie héréditaire.
Alors ça, c'était une grande nouveauté aussi, parce que à partir du moment où, évidemment, c'était une maladie génétique, et tout de suite, bien sûr, une anomalie du génome, du nombre des chromosomes, c'est une maladie génétique qui touche le génome. Mais c'est une anomalie quantitative, en quelque sorte, d'une part, c'est-à-dire qu'il y a un chromosome en plus, ce n'est pas un gène qui est malade, c'est un chromosome en plus, une anomalie du nombre des chromosomes, d'une part. Et d'autre part, c'est une maladie génétique, mais qui n'est pas héréditaire. Vous avez des maladies génétiques qui sont héréditaires, on en connaît la myopathie, la mucoviscidose par exemple. Eh bien, la trisomie n'est pas héréditaire dans 95 ou 96% des cas, c'est-à-dire dans la quasi-totalité des cas. Ce qui veut dire, et c'était très important après ça en termes d'accompagnement des familles, que lorsque une maman a donné naissance à un enfant trisomique, elle n'a pas de risque de donner naissance à un autre enfant trisomique. Voilà. En tout cas, elle n'a pas plus de risque qu'une autre personne. Et de fait, on voit très rarement, extrêmement rarement, des fratries dans lesquelles il y a plusieurs enfants trisomiques. C'est extrêmement rare. Et ça arrive dans des cas très, très particuliers, mais on peut le savoir, c'est même pas la peine de les mentionner ici. La règle, c'est que la trisomie 21 est une maladie génétique, mais que c'est une maladie génétique qui n'est pas héréditaire. Et puis, c'est un accident. Et ça aussi, ça fait partie des éléments positifs pour la prise en charge des familles et l'accompagnement des familles, c'est de dire que c'est un accident. C'est pas parce que papa ou maman se sont comportés de telle ou telle manière, parce que ça se disait beaucoup.
Bien sûr, oui, avec toutes
j'ai encore parlé ce week-end avec une personne âgée qui a plus de 80 ans et qui a donné naissance à un enfant trisomique. Et elle me disait, mais ce qu'il y a dans le livre, c'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti. On me disait, mais vous avez fait quelque chose de pas bien, votre mari ceci, vous-même, est-ce que vous êtes sûr de, etc. Donc en fait, il y avait une espèce de suspicion, de crainte qui était totalement déplacée. Les personnes, les papas et les mamans qui donnent naissance à des enfants trisomiques n'y sont pour rien. C'est accidentel, ça peut vous arriver à vous, à moi, et c'est tout, c'est un accident.
Alors, avançons dans le deuxième chapitre de cette histoire. La première partie consacrée à cette découverte. Enfin, on peut dire que c'est une maladie, et vous nous l'avez expliqué très bien, c'est un accident. La deuxième partie, c'est donc le dépistage. Dépistage ou diagnostic, vous allez pouvoir nous faire la différence dans quelques instants entre ces deux termes. Aujourd'hui, on procède à des amniosynthèses pour des mamans qui peuvent avoir un risque plus ou moins accru d'avoir un enfant trisomique. Et dans votre ouvrage, on comprend très bien que pour vous, le dépistage ne doit pas être systématique. Pourquoi ?
Alors, il faut faire la distinction, vous l'avez rappelé, il faut faire la distinction entre diagnostic et dépistage. Le diagnostic fait partie de la médecine et il n'y a pas de jugement à porter sur le diagnostic. Le diagnostic, c'est le premier pas quand on va chez le médecin, on est demandeur d'un diagnostic, lui-même est demandeur d'un diagnostic et à partir de ce diagnostic, après ça, on peut prendre en charge la personne, la soigner, la traiter, la guérir. Donc il n'y a aucune connotation particulière du diagnostic, c'est évidemment le métier noble de la médecine. Après ça, le dépistage, c'est autre chose. Le dépistage, c'est la mise en œuvre d'une politique. Alors on peut faire du dépistage ou on peut ne pas en faire. Il y a des dépistages qui sont utiles, il y en a qui le sont moins. Tout dépend de la finalité qui est poursuivie. Il est certain que pour mener un dépistage qu'on appelle en population, c'est-à-dire un dépistage généralisé sur l'ensemble de la population, il faut avoir des bonnes raisons pour ça. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre en place une véritable prévention. parce que ça permet de ne pas attraper la maladie, donc c'est très important. Ou alors il faut avoir la perspective d'avoir des traitements, ou une perspective qui soit positive. Bon, si cette perspective n'existe pas, la politique du dépistage, évidemment, pose d'autres questions. D'autant que le dépistage, dans le dépistage qui est important, ce n'est pas tellement la demande, ce n'est pas les parents qui sont en demande, ce n'est pas le médecin qui en demande, c'est la société qui offre quelque chose. La société offre un dépistage. Alors, quelles sont les raisons, en réalité? Eh bien, les raisons, en fait, on les connaît, elles ont été exprimées dans des publications au début des années 90. Les raisons du dépistage reposent sur trois piliers. C'est d'une part la disponibilité des techniques de dépistage. J'ai visité l'amyosynthèse, mais avant ça, il y a les marqueurs sériques. Enfin, on peut en dire un mot tout à l'heure. C'est-à-dire que le dispositif technique existe pour le faire. Bon, ça existe, c'est en vente. Après ça, il y a la deuxième raison, c'est l'aversion, en fait, pour cette maladie, pour cette pathologie, pour ce handicap, l'aversion pour la trisomie 21. Il y a globalement dans l'opinion publique une sorte d'aversion, on n'a pas envie d'avoir un enfant trisomique. Et puis troisièmement, la troisième raison, c'est le coût. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant un dépistage généralisé et en ne gardant pas en vie les enfants trisomiques, c'est-à-dire en permettant aux mamans de ne pas donner naissance à ses enfants, en fait, on fait une économie dans la prise en charge de la personne handicapée pendant des années. Donc ces trois raisons-là sont les trois raisons qui ont fondé la politique de dépistage. En réalité, ce sont des raisons qui ne sont pas évidentes à appréhender sur le plan éthique.
Mais alors oui, effectivement, avec une dimension un peu cynique, hein, bien sûr, quand vous abordez la question économique. Mais ces parents, en l'occurrence, ces femmes qui vont faire des amniosynthèses, vous le disiez à l'instant, c'est un enfant sur 650, un enfant sur 700, ce qui est important, mais heureusement, qui ne touche pas forcément toutes les mères. Ces mères qui réalisent une amniosynthèse, qui découvrent qu'elles ont un enfant trisomique, elles ont quand même un choix difficile à faire. La décision d'avorter, en l'occurrence, n'est pas une décision facile.
C'est certain. Non, mais ce qui est critiquable dans cette affaire...
Parce que ça sous-entend, sous-entend dans vos propos qu'on fait ses courses, quoi. On fait son marché, hop, on a un enfant, oh, mais s'il n'est pas bien, on le rend et on en a un autre.
Non, mais heureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, moi, je suis parti d'un chiffre qui m'a frappé, qui m'a choqué, que vous n'avez pas cité au début.
C'est 96%.
C'est 96%
des enfants.
En fait, est-ce que l'opinion publique sait, est-ce qu'on sait que 96% des enfants trisomiques 21 qui sont dépistés sont avortés? En réalité, c'est un chiffre qui est considérable. Et tout le discours que l'on tient sur le dépistage, et c'est un peu le discours que vous tenez, c'est de dire, mais au fond, c'est quand même pas un choix facile, c'est un choix difficile que les parents font dans la difficulté, la douleur et les larmes, et donc laissons-leur cette liberté, au fond, c'est la liberté qu'ils ont, etc. En réalité, ce que je conteste là-dedans, et à partir de ce chiffre, et c'est-à-dire c'est ce qui m'a interpellé, c'est de me dire, où est la liberté? Où trouve-t-on une trace de liberté dans le chiffre de 96%? Parce que si le chiffre avait été différent, c'est-à-dire que si le chiffre du dépistage généralisé donnait 50% je le garde, 50% je ne le garde pas, bon, pour faire les choses de manière un peu rapide et un peu brutale, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Je ne pouvais que m'incliner en disant, effectivement, le choix des gens, c'est il y en a qui ont du courage, ou il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont aidés, il y en a qui ne sont pas, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont riches, chacun fait comme il peut. Et au fond, c'est à peu près équilibré. Bon. Mais en réalité, quand on voit le chiffre de 96%, je ne vois pas de trace de la liberté. Si la liberté s'exerçait véritablement, il n'y aurait pas 96%.
Et pourtant, les médecins proposent l'amniosynthèse. En aucun cas, ils obligent l'amniosynthèse. Mais après, ils ne se prononcent pas sur la décision des parents qui est de oui ou non, si l'enfant est trisomique, de garder cet enfant.
Alors ça, c'est une, à mon avis, une vision un peu optimiste des choses. Ce qui existe, et le système français est un des rares à être aussi dirigiste, c'est un système dans lequel les médecins ont l'obligation de proposer les tests à toutes les femmes. Les femmes n'ont pas l'obligation de le faire, elles peuvent dire non. Mais les médecins ont l'obligation, premièrement. Deuxièmement, ils ont l'obligation de le faire auprès de toutes les femmes, sans critère d'âge, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres pays développés, d'Europe, pour faire vite. Dans beaucoup de pays d'Europe, vous avez une proposition qui est faite à partir d'un seuil d'âge, à partir de 35 ans, 38 ans, à partir du moment où le risque commence à augmenter. Donc on peut mieux comprendre, si vous voulez. Mais en France, on n'a pas retenu ce critère-là. On dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de différence, d'inégalité entre les jeunes et les plus âgés. Par conséquent, on propose à tout le monde. Ce qui fait que ça en fait un test de masse qui est proposé de manière très incitative à toutes les femmes. Alors après ça, quand vous dites normalement, ce n'est pas le médecin qui dit, etc., et qui prescrit, bien sûr. Mais en réalité, on s'aperçoit, et une étude qui vient de sortir de l'INSERM au mois de janvier, donc je veux dire,
2009,
c'est contemporain du livre, vient de montrer que la moitié des femmes à qui on propose le test des marqueurs sériques ne comprennent pas en fait, la proposition qu'il aurait faite. Ce qui fait que, dans bien des cas, et je le démontre dans mon livre avec quelques citations, en réalité, il y a une incitation qui est très explicite de la part du médecin pour que la personne à qui on soumet ce test, d'abord, l'accepte, et puis ensuite aille jusqu'au bout du système. Parce que j'ai repris plusieurs citations, et j'aurais pu en citer encore bien davantage, mais elles sont toutes dans le même sens. Les médecins qui ont compris le système de dépistage et qui le pratiquent, en fait, disent tous, si la personne ne veut pas aller au bout, ça n'a pas de sens de payer un dépistage généralisé pour 800 000 femmes enceintes annuellement si on ne va pas au bout, puisque la finalité du dépistage, c'est de faire une espèce de prévention en tout ou rien, entre guillemets, qui fait que ce sera in fine moins cher. Parce que je ne vois pas sinon pourquoi mettre à la charge de l'assurance maladie 100 millions d'euros chaque année. Il y a une logique économique. Pour que cette logique économique tienne la route, il faut forcément que ce soit moins cher de procéder ainsi que de procéder autrement. Par conséquent, il y a de fait une incitation des femmes à accepter le test, même si cette incitation n'est pas volontariste, n'est pas violente, mais une incitation. Et après ça, une fois qu'on est rentré dans le processus, c'est extrêmement difficile. Les femmes qui sont capables, dans cette situation-là, c'est-à-dire en début de grossesse, où on est quand même un peu fragilisé, et il ne faut pas vous raconter trop d'histoires qui font pleurer, quand on leur dit tout de suite, vous risquez d'avoir un enfant trisomique, souvent, c'est la terre qui se dérobe sous elle. On leur dit, vous aurez un enfant trisomique, vous savez, il ne pourra pas aller à l'école, ça va être très dur, il n'aura pas d'enfant, il sera à votre charge, rien n'est prévu pour les vieux. Bon, une fois qu'on a dressé un tableau comme ça, il faut être une sainte pour dire « Ok, pas de problème, on continue comme si de rien n'était. » Bon, eh bien, je trouve que ce n'est pas honnête, en réalité, de présenter les choses ainsi. Parce qu'on présente quoi ? On ne présente pas l'enfant que la femme porte. On présente la trisomie comme étant une espèce d'horreur fantasmée qui fait que c'est absolument impossible d'imaginer pouvoir vivre avec un enfant trisomique et en assumer les conséquences. Eh bien, je pense que ce n'est pas normal. On doit présenter la personne. Madame, vous attendez un bébé, mais voilà, votre bébé, il va peut-être avoir un problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Ça va être la trisomie. Voilà ce que c'est que la trisomie. Ce n'est pas forcément un calvaire, ce n'est pas forcément un chemin de croix, ce n'est pas une situation enviable, mais il y a plein d'autres situations qui ne sont pas enviables. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Je vous propose, Jean-Marie Lemenet, je vous sens vraiment porté par votre sujet. Je vous propose de marquer une courte pause et puis on se retrouve tout de suite après pour aborder la suite de notre émission Éclairage sur la trisomie 21. Tout de suite.
Un jour dans l'histoire revient sur le parcours d'Alexis de Tocqueville, qui fut associé étranger à l'Académie des sciences morales et politiques. Lucien Jaume nous offre une biographie politique fondée sur une correspondance nouvelle et sur une relecture de ses deux principaux ouvrages. Une émission en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Jean-Marie Lemenet, pour évoquer avec lui la trisomie 21 à l'occasion en 2009 du cinquantenaire de la découverte de la trisomie 21 par Jérôme Lejeune. On en était avec vous, Jean-Marie Lemenet, à cette liberté ou non d'avorter, en fait, hein, mettons les mots qu'il faut, d'avorter lorsque l'on connaît la trisomie 21 de son futur enfant. Dans votre ouvrage, dont je redonne le titre, La trisomie est une tragédie grecque, vous y allez fort, vous parlez d'une dérive eugéniste amorcée. Vous pensez réellement que l'on met fin petit à petit aux trisomiques ?
Je vais même plus loin que ça, en fait. Je pense que la dérive eugéniste, elle n'est pas amorcée. Elle est plus que ça. On est déjà dans un eugénisme parfaitement consenti. En revanche, on est peut-être dans une dérive génocidaire amorcée. Et c'est même pas moi qui utilise le terme pour la première fois. C'est le professeur Mies dans son livre. Il dit, mais au fond, est-ce qu'on n'est pas déjà dans le génocide ? Et qu'est-ce qui fait la différence entre un génocide criminel et un génocide médical ? Eh bien, il dit lui-même, il n'y a pas de différence. Simplement, l'intention est pure dans le cas du génocide médical. Alors, bon, je me garderai bien de m'inscrire dans la suite de ces propos. Je pense que malheureusement, le génocide se caractérise par des critères qui sont précis. Et à partir du moment où on vise une population qui est donnée, qui est caractérisée par son génome, et qu'on porte atteinte à la vie des membres de ce groupe, avec derrière une planification étatique et définition étatique, on est dans la définition du code pénal du génocide. Alors, je ne dis pas que ceux qui mettent en œuvre concrètement les médecins, je ne dis pas que le ministre de la Santé sont génocidaires, je dis qu'on a un système qui est de type génocidaire, parce que le but, c'est de viser à l'éradication. L'ancien président du CCNE, le professeur Sicard, ne disait pas autre chose dans son article du Monde. On vise à l'éradication d'une population.
Mais pourtant, à chaque fois, et vous l'avez expliqué vous-même, c'est que les parents ont le choix même si c'est un choix qui n'est pas forcément éclairé totalement, ils ont le choix.
Ils ont le choix, mais je pense que les conditions de ce choix sont biaisées, et c'est ce que vient de montrer l'étude qui est sortie à l'INSERM, et c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut remettre en question cette affaire du dépistage, non pas du diagnostic, mais du dépistage, en reprenant une intuition qui était celle du professeur Mattei, qui était porteur en fait de cette organisation de ce dépistage en 1996. Mattei disait la chose suivante, je reprends ses propos dans son livre, c'était très sage, il disait écoutez, mettons en œuvre ce dépistage généralisé, mais accordons la même place et les mêmes crédits et le même financement à une recherche dans un but thérapeutique, de manière à ne pas laisser comprendre qu'au fond, on veut éradiquer une population. Ce sont les termes mêmes de Jean-François Mattei que je reprends dans mon livre. Moi, je dis, reprenons au pied de la lettre ce que disait le professeur Mattei, généticien, élève de Lejeune, parlementaire et ministre, qui s'est quand même beaucoup spécialiste de la trisomie 21, qui s'est bien penché sur ces questions. Reprenons ces propos au pied de la lettre et donnons, en fait, à une recherche avisée thérapeutique les mêmes chances que le même volume de crédit que ce qu'on accorde au dépistage généralisé. Parce que finalement, le dépistage de la seule trisomie, c'est quand même 100 millions d'euros pour l'assurance maladie. Je trouve que c'est un chiffre quand même déraisonnable pour aboutir à des conséquences qui sont essentiellement négatives. Donc moi, je ne dis pas doublons le budget. En ce moment, c'est pas la mode de doubler des budgets. Mais consacrons la moitié de ce budget au moins, enfin autant, consacrant la moitié, 1 euro pour le dépistage, 1 euro pour la recherche, la visée thérapeutique. Comme ça, on ne pourra pas dire on est en train de viser à l'éradication de cette population.
Voilà. Alors, dans la première partie, on a longuement parlé du dépistage. Si je reprends vos propos, finalement, le problème, pour vous, c'est la question du dépistage. Pourtant, on ne peut pas nier le progrès médical. C'est un progrès que de pouvoir savoir, avant même la naissance d'un enfant, qu'il est porteur d'une maladie.
Ce qui est un progrès, ce n'est pas le dépistage, c'est le diagnostic qui est un progrès. Donc, le fait de savoir, d'être capable de savoir ce qu'un enfant est ou a in utero, c'est évidemment un progrès. Mais ce progrès-là, c'est un progrès technique qui peut être mis au service de la personne ou qui peut ne pas être mis au service de la personne. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Moi, je pense que quand on capitalise sur la peur de 800 000 femmes annuellement, et la seule peur qu'on fait mousser finalement auprès de ces femmes, c'est de dire attention, surtout faites en sorte de ne pas avoir un enfant trisomique. Comme si c'était la seule crainte qu'une femme devait nourrir. D'abord, elle ne doit nourrir aucune crainte quand elle est enceinte, mais pas plus celle-là qu'une autre. Et donc, je trouve que c'est déséquilibré, que c'est déformé, que de capitaliser uniquement sur cette crainte-là. Je suis d'accord pour dire que le diagnostic est un progrès. En revanche, tout dépistage n'est pas forcément un progrès. Un dépistage est un progrès dès lors qu'il va dans le sens de quelque chose d'humain et d'humanisé. Le fait d'éradiquer une population ciblée me paraît dangereux et ne me paraît pas en soi un progrès.
Vous parliez au début de l'émission justement des problèmes éventuellement, enfin même pas éventuellement, mais des problèmes effectivement dans l'école, dans l'insertion sociale. Pour vous, être parent par exemple d'un enfant trisomique, ce n'est pas difficile, c'est simplement faire fi du regard des autres. C'est juste une question du regard de la société sur son enfant.
Je pense que les parents qui ont un enfant trisomique ont justement affronté quelquefois le regard de la société. C'est une difficulté, c'est une épreuve, ça peut être une souffrance. Mais je pense que le fait d'avoir et de vivre avec un enfant touché par la trisomie 21 n'est pas forcément synonyme, et même loin d'être synonyme de calvaire, chemin de croix, etc. Je pense que cette terminologie doloriste qui a été utilisée et qui est toujours utilisée aujourd'hui par certains médecins qui noircissent le tableau est décalée par rapport à la réalité. Ça, c'est pas vrai. C'est pas plus facile de vivre avec un enfant myopathe ou qui a la mucoviscidose ou qui a le spina bifida, etc., etc., et j'en passe, et des meilleurs. Avoir un enfant trisomique, c'est avoir un enfant qui est extrêmement affectueux, qui est dans la réciprocité, dans l'échange, qui regarde l'autre, qui sent tout de suite si l'autre aime ou n'aime pas. On est dans une relation d'échange. Faites la comparaison, par exemple, avec l'autisme. L'autisme, c'est beaucoup plus difficile. Il ne s'agit pas, encore une fois, de mesurer les souffrances et les seuils de tolérance qu'on peut avoir les uns les autres, ça dépend de chacun. Mais je veux dire que vivre avec un enfant trisomique et quelque chose d'impossible, c'est totalement faux. Nous connaissons, nous, parce que nous les prenons en charge, beaucoup de très nombreuses familles qui ont un enfant trisomique, ce sont des familles qui sont heureuses. L'enfant trisomique est heureux, sa famille est heureuse, et voilà, ils auraient préféré que leur enfant ne soit pas trisomique, c'est une chose entendue. Mais ils n'auraient pas préféré que leur enfant, qui s'appelle aujourd'hui Pierre ou qui s'appelle Charlotte, ne soit pas là. Alors, sauf qu'il est là avec la trisomie. Ben, on fait avec, et c'est à la solidarité de la société qu'il faut faire appel pour que ce poids de la trisomie soit allégé pour les parents. Mm-hmm. Mais le fait de dire, ben, finalement, on vous privera de Paul ou on prévoit de Charlotte, c'est pas ce qu'attendent les parents. Ils veulent avoir Paul et Charlotte, mais qu'on les aide sur la trisomie.
Alors, une des inquiétudes, j'imagine, pour des parents qui vont peut-être donner naissance à un enfant trisomique, c'est aussi quel avenir donner à cet enfant, et notamment quand les parents vieillissent, qui va seconder ces parents qui ne sont pas immortels et qui ne seront pas toujours là pour aider cet enfant.
Oui, vous avez raison de souligner que c'est un problème tout à fait nouveau. C'est la première génération de personnes handicapées, et singulièrement de personnes handicapées mentales, qui va survivre à ses parents. Donc, ils vont se trouver en première ligne par rapport au vieillissement. Et on sait à quel point le vieillissement est difficile pour justement les personnes handicapées mentales. Donc, raison de plus pour que l'État prenne en charge cette question-là et l'anticipe, ce qu'il n'a pas fait. Et ça, je lui reproche, parce que c'était une donnée qui existait. On connaissait les courbes de vieillissement des personnes avec un handicap mental, et particulièrement des trisomiques. Or, il était, je ne dis pas facile, mais il était possible, en tout cas d'anticiper tout simplement des places en établissement, au foyer, etc. Donc il y a ça, cette dimension sociale qu'il faut absolument creuser, mais je ne dis pas que l'État fait rien, je dis le contraire même. Je pense qu'on a on a de bons ministres et de bons administrateurs qui veillent à l'avenir des personnes handicapées. Je ne suis pas du tout dans la critique systématique de l'État. En revanche, ce qu'il faut faire aussi, c'est essayer de comprendre pourquoi la trisomie est là, comment on peut éventuellement la compenser donc sur le plan biochimique, sur le plan médicamenteux, de manière à faire récupérer les personnes trisomiques 21, leur faire récupérer quelques points d'amélioration de leur capacité cognitive, autrement dit quelques points de QI pour être plus simple, de manière à les rendre plus autonomes. Et à ce moment-là, dès qu'elles sont un peu plus autonomes, ça change complètement le paysage social, parce que ça veut dire qu'elles peuvent vivre en dehors de chez papa-maman, elles peuvent se débrouiller plus ou moins toutes seules, avoir un métier, aller poursuivre quelques études un peu plus longtemps, etc., avoir un apprentissage. Et ça change tout. Ça change tout, y compris sur le plan financier.
Alors avant d'en venir effectivement aux possibilités et de l'avenir de ces enfants, j'ai parlé au début, pour présenter cette émission, de la révision des lois de bioéthique. Justement, quelle place peut avoir la recherche sur la trisomie 21 avec la révision de la loi bioéthique ?
Ce n'est pas un sujet qui sera directement traité par la loi de bioéthique. La loi de bioéthique a traité dans sa première version en 1994 la question du DPN, donc du dépistage prénatal, en l'encadrant dans des conditions réglementaires, donc ce qui est le cas aujourd'hui. La loi de bioéthique de 1994, en même temps, sous l'instigation de Mattei, a pris une disposition contre l'eugénisme en disant que toute sélection eugéniste des personnes était interdite, etc. Maintenant, il faut voir ce que ça veut dire. Et peut-être que 15 ans après, il faut tirer des conclusions ou des leçons ou des retours d'expérience de ce qui a été fait depuis 15 ans et s'apercevoir aujourd'hui que l'eugénisme qu'on a banni dans la loi de bioéthique de 1994, il est là aujourd'hui. Et c'est ce que disent un certain nombre de juristes ou de scientifiques. Ils disent aujourd'hui la loi de 1994, elle a quand même permis l'eugénisme. Bon. Alors, à partir de ce constat-là, peut-être que dans les débats qui vont accompagner la loi de bioéthique, les états généraux de la bioéthique, c'est la première fois que ça se fait en France, peut-être que certains diront, écoutez, pour faire en sorte que l'eugénisme soit brisé, soit ralenti dans sa tendance naturelle de facilité, donnons à la trisomie, par exemple, la possibilité de voir se développer une recherche qui aurait pour but non pas d'éliminer les enfants qui sont attendus, mais au contraire de comprendre mieux leur maladie, de les prendre en charge et de trouver par la recherche un moyen d'améliorer leur capacité intellectuelle.
Et c'est ce que fait en grande partie la Fondation Le Jeune.
C'est ce que nous faisons, nous, avec des fonds complètement privés. Et mon appel, c'est de dire, mais attendez, l'État, il est là et nous, on a besoin de l'État. Une fondation privée ne peut pas se substituer à l'État. Et donc, une grande politique de recherche a besoin d'être menée par l'État. Nous, on apporte ce qu'on peut, mais c'est aussi à l'État de jouer sa partition.
Dans quelques instants, on va parler de la Fondation Jérôme Lejeune et de ce que vous faites au sein de cette fondation. Auparavant, je voulais savoir quelle était, vous, votre proposition, puisqu'on a bien compris, le diagnostic est intéressant, le dépistage systématique n'est pas forcément quelque chose à valoriser. Mais alors, qu'est-ce que vous préconisez, vous, monsieur le Méné ?
La première chose, ce serait d'abord dans la formation qui est donnée à tous les étages de la formation en France, que ce soit dans le scolaire ou après, universitaire, ce serait de présenter la trisomie 21, non pas à travers uniquement la maladie. On a vite compris ce que c'était que la trisomie. Une fois qu'on a dit que c'est un chromosome en plus, que c'est quelque chose de grave et que ça donne un handicap mental, évidemment, le paysage est assez noir. Je pense qu'il faudrait quand même beaucoup plus présenter les personnes trisomiques avec les richesses qu'elles ont, qu'elles portent, qu'elles sont capables d'exprimer, le bonheur qu'elles sont capables de vivre, de ressentir, de donner, de faire partager. Donc, je veux dire que la meilleure des choses, c'est de présenter les personnes. Il y a des personnes qui existent en chair et en os, qui sont des enfants de leurs parents, qui sont des frères ou des sœurs de leurs petits frères, de leurs petites sœurs, et qui sont porteuses d'une trisomie. Voilà, première chose. Donc valoriser la personne plus que la maladie. Et donc moins faire peur avec la maladie et plus valoriser la personne. Après ça, la deuxième chose, moi je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur un dépistage obligatoire pour les médecins. Je pense qu'il faut libéraliser les choses, faire confiance au corps médical et dire aux médecins, c'est vous qui êtes les responsables de cette affaire, c'est vous qui avez une conscience, c'est vous qui êtes en contact avec les parents, avec les familles, famille, avec les femmes, etc. Donc, faites ce que vous croyez devoir faire en conscience. Et n'imposons pas un système autoritaire. Tous les médecins doivent présenter à toutes les femmes. Non. Faisons confiance à la conscience du médecin. C'est le médecin qui doit présenter ou ne pas présenter l'éventualité d'un dépistage. Après ça, laissons aux femmes aussi le soin d'exiger absolument la certitude d'avoir un enfant en bonne santé. Je ne les juge pas, c'est leur histoire, c'est leur problème. Si elles veulent absolument avoir un enfant qui soit comme ci, comme ça, qui observe tous les canons de la beauté, c'est leur problème. Je ne les juge pas. Mais n'imposons pas, parce que le problème, c'est que la société, à travers cette politique de dépistage, impose un modèle. Et en fait, elle impose un certain ordre moral. Je ne pense pas que la société soit le mieux placée pour poser un ordre moral. Laissons les gens le faire spontanément de leur côté, les médecins et les femmes. Donc libérons un petit peu. Et de ce fait, on libérera aussi l'exigence judiciaire qui pèse sur le monde médical. Je ne rappellerai pas parce qu'on n'a pas le temps ici, mais l'affaire Perruche. Mais je pense que les auditeurs savent. Et en fait, ça veut dire que un médecin a été pour une fois condamné parce qu'il avait donné naissance à un enfant qui n'était pas normal. Et ça, c'est un spectre qui va revenir parce que la technique pousse à dans ce sens. Les médecins ont très peur de ça. Ils ont raison d'avoir peur. La médecine, c'est pas une science exacte. Donc, on ne met pas un médecin en condamnation, en jugement, en examen, parce qu'il a donné naissance à un enfant qui n'obéissait pas au canon de la beauté. Et voilà. Donc, je trouve que si on allégeait aussi cette pression du dépistage, on allégerait en même temps la charge judiciaire qui pèse sur le monde médical. Bon, on rendrait de la liberté.
Entre canon de la liberté et puis trisomie, je pense quand même qu'il y a tout un monde. J'y laisse nos auditeurs se faire leur propre opinion. Venons-en, s'il vous plaît bien, puisque nous arrivons petit à petit au terme de notre émission, au rôle de la Fondation Jérôme Lejeune, puisque maintenant, ce gène, ce troisième gène dans la paire 21 a été découvert. Quelles sont actuellement les recherches en matière de trisomie 21?
Alors, on a plusieurs choses. Enfin, on a l'habitude de caractériser notre travail en disant qu'on conjugue le verbe chercher, soigner et défendre la personne. Alors d'abord, soigner, c'est-à-dire qu'on a une grosse consultation de personnes touchées par la trisomie et d'autres pathologies. Il y a d'autres retards mentaux d'origine génétique, donc qui sont nombreux, qui sont plus ou moins connus, sur lesquels il y a très peu finalement de ressortissants et de patients. Mais on a chez nous un certain nombre de médecins et en particulier des généticiens qui sont capables de poser des diagnostics sur des pathologies extrêmement rares qui entraînent un retard mental. Or, c'est très important, même si on ne sait pas guérir, de savoir diagnostiquer quand même, parce qu'on ne prend pas en charge une personne qui a un retard mental d'origine génétique comme on prend en charge une personne qui aura un retard mental d'origine psychiatrique, par exemple. Ça n'a évidemment rien à voir. Et souvent, le ressort de la psychiatrie utilise pour des pathologies qui sont de nature chromosomique, c'est évidemment une catastrophe. Donc, prise en charge des personnes avec aujourd'hui des possibilités de soins, de traitements pour des quantités de pathologies ajoutées, surajoutées, de handicaps qui s'ajoutent et sur lesquels on peut agir et faire quelque chose. Donc, on dit qu'on ne peut rien faire pour les personnes touchées par l'handicap mental, c'est faux. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Le retard mental, lui, on n'en vient pas à bout encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on décline après ça, après le verbe soigner, le verbe chercher. Et donc on a un conseil scientifique, on a des appels d'offres et aujourd'hui on distribue un certain nombre de subventions à des chercheurs qui essaient de comprendre le fonctionnement de la trisomie et en particulier le rôle que peuvent avoir certains gènes sur le chromosome 21 pour essayer d'inhiber l'effet délétère, l'effet mauvais, pernicieux de tel ou tel gène qui serait susceptible d'être très lié au retard mental et qu'on arriverait à annuler en quelque sorte. On faudrait en quelque sorte éteindre l'effet, mettre entre parenthèses l'effet biochimique du chromosome supplémentaire qui ne sert à rien, qui fait que désorganiser et que créer un court-circuit généralisé chez ces personnes qui ont des possibilités, qui ne peuvent pas les exprimer à cause d'une sorte de ralentissement dû à une surexpression d'un génome trop abondant, puisque un chromosome en plus dans chacune des cellules.
Oui, donc inhiber ce
inhiber
gène.
Inhiber l'effet de ce chromosome en plus. Donc, vous voyez, soigner, chercher, et puis défendre la personne, parce que si on ne commence pas par les défendre dans leurs droits, dans leur dignité, bah, c'est vrai que ce n'est même plus la peine de faire le reste. Donc ça, ce sont des actions qui sont plus sociales, si vous voulez. Et puis on a une veille bioéthique, qu'on appelle, sur un site particulier, qui s'appelle Génétique, génétique avec TH comme le mot éthique, parce que derrière, vous l'avez bien senti, il y a derrière des questions éthiques. Et donc depuis 10 ans, on fait une veille en matière bioéthique sur ce site génétique.org qui offre une revue de presse quotidienne et gratuite depuis 10 ans et qui est très lue par les spécialistes et ceux qui le sont moins.
Et vous financez également un institut qui reçoit 4500 patients, voilà. Je crois, avec des orthophonistes, des médecins spécialistes. Voilà. Donc vous vous occupez aussi d'une manière peut-être moins importante, mais importante quand même, de ces enfants qui sont trisomiques.
Oui. Non, mais ça, j'insiste beaucoup là-dessus et il faut terminer en insistant beaucoup là-dessus. Moi, je ne m'autorise à parler de la trisomie que parce que nous rendons un service derrière et que nous avons la plus grosse consultation d'Europe en matière de retard mental d'origine génétique. Si on n'avait pas cette consultation, si on n'avait pas tous les jours des parents, des familles qui viennent à la consultation parce qu'ils ont besoin d'être aidés, d'être pris en charge, etc., je ne m'autoriserais pas à parler sur la trisomie 21. Et ce que je vois, moi, c'est ce qui m'a incité à écrire ça. C'est pas pour plaisir de donner des leçons de morale, c'est parce que derrière, je dirais que les gens qu'on voit arriver, ce sont souvent des rescapés de l'eugénisme. C'est-à-dire qu'ils ont dit par conviction personnelle que voilà, c'était leur enfant et qu'ils allaient vivre avec cet enfant, que ce ne serait pas facile. Et ils ont aussi affronté le regard des autres et le regard de la société et un regard de culpabilité qui revient. Et ça nous ramène au début de l'émission. En fait, Jérôme Lejeune avait levé la culpabilité qui pesait sur les parents d'enfants mongoliens. Parce qu'on changeait de trottoir quand on rencontrait un enfant mongolien avec sa mère. On disait, mais celle-là, elle a couché à droite et à gauche. Maintenant, Jérôme Lejeune a dit, mais c'est des histoires, ça, c'est pas vrai. Maintenant, la culpabilité revient parce qu'on dit, mais pourquoi cette femme-là, elle l'a gardée ? Donc la culpabilité de l'avoir conçue, c'est fini. Mais la culpabilité de l'avoir gardée, elle revient. Or, on dit aux femmes, mais pourquoi vous l'avez gardée ? Vous avez tous les moyens de ne pas le garder. Or, je veux dire, on n'a aucun jugement à porter sur la femme qui a gardé cet enfant. Il ne faut pas que ce soit considéré comme de l'héroïsme. C'est un comportement normal et aucun jugement à porter. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on les aide aussi. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis d'écrire ces quelques lignes. C'est parce qu'elles sont le fruit d'une expérience et d'un retour d'expérience et non pas une leçon de morale lancée en l'air.
Et d'où le titre, donc, La trisomie est une tragédie grecque. Une dernière question pour terminer cette émission. On vous sent vraiment porté par le sujet. On sent que vous parlez avec vos tripes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes le président de cette fondation ?
Mais c'est une coïncidence historique en réalité, puisque j'ai eu l'occasion de bien connaître Jérôme Lejeune pendant une vingtaine d'années et que pour des raisons familiales, je l'ai connu et fréquenté. Et qu'après sa mort, on s'est trouvé devant une situation où il fallait faire quelque chose et avec bien sûr sa famille, mais également ses patients, ses amis et ses collaborateurs scientifiques et médecins. On a décidé de recréer une structure, une fondation dans laquelle on poursuivrait son œuvre scientifique, morale et éthique.
Eh bien, je vous remercie Jean-Marie Méléménée. Voilà, la mission se termine. La trisomie est une tragédie grecque. C'est donc le titre de votre ouvrage publié aux éditions Salvator en janvier 2009. Et j'ajoute bien sûr que nous fêtons les 50 ans de la découverte de la trisomie.
Voilà, des causes de la trisomie en janvier 59.
Par voilà. Jérôme Lejeune, qui, je le précise, était membre de l'Académie des sciences
morales et politiques.
Merci beaucoup.
Merci à vous.